L'intégral tour, Christophe Cessieux.
L'intégral tour pour la première étape du Tour de France aujourd'hui. 213 km à parcourir entre Porto Vecchio, le sud de la Corse, jusqu'à Bastia, le nord de la Corse évidemment. Il reste un peu moins de 54 km encore à parcourir avant l'arrivée à Bastia. Et on va faire tout de suite un point complet avec Fred Adam. C'est le Top Course.
RMC Top Course.
Et ils sont 5 à l'avant pour cette première étape du 100e Tour de France, direction Bastia depuis Porto Vecchio, cap au nord le long de la Méditerranée, à l'est de l'île de Beauté. 5 à l'avant de la course, 2 Français, Jérôme Cousin de l'équipe Europcar et Cyril Lemoine pour Sojasen. Juan José Lobato, l'Espagnol, est accompagné de son compatriote Juan Antonio Flecha, l'expérimenté coureur de l'équipe Vacances Soleil, et un Hollandais, Lars Boom. Ils sont échappés depuis le kilomètre 0 et comptent un tout petit peu moins de 2 minutes à 53 km de l'arrivée à Bastia. Ça sent bon l'arrivée au sprint. Une explication royale nous attend ici en bord de mer.
Et on continue à faire le yo-yo entre l'échappée et l'avant-garde du peloton mené par les équipes de sprinteurs. La moto RMC, Marc Combe est au guidon et derrière lui, son fidèle Georges Quirino au contact des coureurs. Georges, toujours une bonne température, même si le temps est en train de se brouiller quelque peu, me semble-t-il. Un peu plus de nuages.
Oui, effectivement. Et on se rapproche de la voiture Sojasen pour rejoindre Nicolas Guy, le directeur sportif qui suit Cyril Lemoine dans cette échappée. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Comment ça va pour le début de ce Tour de France? Être présent dans la première échappée, c'était important pour votre équipe?
Ouais, ça va être important tous les jours pour essayer justement d'aller chercher cette étape et pour aller gagner cette étape. Aujourd'hui, on avait comme objectif d'aller chercher le grimpeur. On est tombé sur un os et sur un Lobato, sur des coureurs rapides. Donc Cyril avait bien anticipé, mais bon, Lars Boom est revenu assez vite. Donc voilà. Maintenant, il est devant et puis on s'approche de l'arrivée.
Je vous ai vu parler au talkie tout à l'heure, lui parler dans l'oreille. Qu'est-ce qu'on dit à son coureur dans ce genre de moment comme ça, quand on sait que le retour du peloton est pratiquement inéluctable sur la fin d'étape?
Bon, on savait dès le départ que de toute façon, ça va être très très compliqué d'aller au bout. Maintenant, voilà, c'est des encouragements. On essaie de motiver le coureur. On passe toujours par des phases assez difficiles sur 200 km. D'échapper. Donc là maintenant les kilomètres passent et puis on se rapproche. Donc voilà, ils ont pris un bon rythme et puis on essaie de l'encourager.
Votre leader sur ce Tour de France, c'est Brice Feuillu, c'est cela?
Le leader de l'équipe c'est Sojasen, c'est l'équipe.
C'est l'équipe.
Hein. On a vraiment des baroudeurs et on va vraiment essayer tous les jours d'aller de l'avant.
Vous êtes invité sur le Tour, on le rappelle souvent, vous êtes une équipe invitée par les organisateurs. Justement, il y a une obligation d'être des animateurs pendant les étapes.
On nous force rien du tout par rapport parce qu'on est invité. On n'a pas de leader cette année, donc on va aller de l'avant. On a vraiment un beau Tour de France avec de belles choses, des belles étapes, donc qui peuvent aussi nous convenir. Donc voilà, ça peut le faire.
Merci beaucoup Nicolas Guy, directeur sportif de l'équipe Sojasen, qui suit donc Cyril Lemoine dans cette échappée. Sojasen qui a perdu celui qui était son leader l'année dernière, Jérôme Coppel, parti dans l'équipe Cofidis. Et puis il y a une information, puisque vous parlez des 5 échappés, ils ne sont plus que 4, hein, les échappés depuis que l'on a passé le sprint intermédiaire. C'est l'Espagnol Juan José Lobato de l'équipe Euskaltel, celui qui allait chercher les points du grimpeur tout à l'heure. Il s'est relevé juste après le sprint. Il est allé discuter avec son directeur sportif pour gagner tranquillement le peloton. Ils ne sont donc plus que 4 dans cette échappée alors que l'on se rapproche de la petite commune de Santa Lucia di Muriani.
Non, tu l'as pas bien dit là. Tu me le refais s'il te plaît, Georges.
Santa Lucia di Muriani. Voilà. Et oui.
C'était un peu mieux. C'est pas encore ça. Je pense que tu seras au point d'ici le 21 juillet. À l'arrivée sur les champs.
Il a du jus, genre.
Ouais, on est en début de tour.
Voilà.
Je pense que dans 10 jours,
c'est là où je voulais en venir.
On l'entendra plus. Il la ramènera moins. Fred, on a vu une image fugitive, celle d'un Français.
Oui.
Un Français qui pourrait tout à l'heure tirer son épingle du jeu, un certain Nasser Bouhanni.
Exactement. L'ancien champion de France, puisqu'il a été dépossédé de son maillot tricolore dimanche dernier par son coéquipier de la FDJ, Arthur Vichot. C'est Nasser Bouhanni, le sprinter de la formation de Marc Madio, qui a été victime d'un incident mécanique et attendu à l'arrière du peloton par son coéquipier Jérémy Roy, qui l'a sagement mais sûrement remonté à l'arrière du peloton. On est encore à un tout petit peu plus de 50 km de l'arrivée. Absolument aucune panique pour le Lorrain. sprinter lorrain, boxeur à 16h. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler de ce drôle de coureur. Ça voudrait dire qu'il s'est mis en évidence peut-être dès ce soir à Bastia, où il pourrait cogner les autres sprinters, c'est le terme, parce qu'il est vraiment sanguin, Nasser Mouhani.
Il est de la vraie race des sprinters, celle qu'adore Cyril Guimard. Nasser Mouhani, c'est un costaud, c'est un bagarreur, ancien boxeur, Fred le disait il y a quelques instants, et dans le sprint, dans les sprints, il n'a peur de rien ni de personne.
Oui, de temps en temps, il faut qu'il garde aussi les mains sur le guidon, parce que si c'est également un boxeur, il s'entraîne énormément dans les salles de boxe l'hiver, et puis il a pratiqué également, d'ailleurs, sa famille aussi. Donc c'est un véritable guerrier, c'est un véritable tueur. J'ai presque envie de le comparer à un Cavendish bis, et qui n'est pas obligatoirement gentil dans les sprints. Il n'a pas la réputation de laisser sa place.
Ils n'ont pas tous les deux, Cavendish et Mouhani, ils n'ont pas que des amis dans le peloton. Ils sont loin de faire l'unanimité.
Je croyais, d'ailleurs, Mouhani s'est fait quelques ennemis, notamment Bernard Eisel, je crois.
Il y a
quelques semaines.
Eisel, très très bon ami de Mark Cavendish. Ceci explique peut-être cela. Ils ne sont plus dans la même équipe, Eisel. Eisel est resté chez Sky quand cet hiver Cavendish est passé chez les Belges d'Omega Pharma. Mais c'est vrai que au jeu du tweet facile, Bernard Eisel avait glissé. Il faudrait que Nasser Mouhani quitte le peloton avant que quelqu'un meure.
C'est sympa, ça.
Réponse de Nasser Mouhani, I love you, Bernard.
Voilà, on s'aime finalement entre coureurs.
Oui, ceci dit, pour l'instant, Mouhani n'a encore envoyé personne par terre, alors que Cavendish est arrivé à plusieurs reprises.
Effectivement.
Il faut rappeler les choses, les faits sont les faits, ils ne se discutent pas.
Nasser Mouhani,
ils peuvent éventuellement se commenter.
Nasser Mouhani qui, c'est vrai, une fois descendu de vélo, c'est souvent le cas après une ligne d'arrivée, les coureurs sont au top de l'adrénaline, va-t-on dire, et vraiment capables de faire le coup de poing, au propre comme au figuré.
Non, il l'a déjà fait.
Bien sûr, et pas avec les plus petits. Un certain Alessandro Petacchi s'en souvient.
Tiens, on va s'amuser sur les surnoms, justement, des rois du sprint. Alors, Nasser Mouhani, c'est le pitbull d'Encourt, paraît-il.
Oui.
C'est en Lorraine, c'est dans les Vosges.
Je ne sais pas qui l'a dénommé comme ça.
Ça aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est
Bernard Taisel. Greipel, lui, c'est le
gorille.
Le gorille. Rostock. Et Cavendish.
C'est The Manx Man dans le peloton, mais c'est parce qu'il est originaire de l'île de Man. C'est plutôt lui le pitbull, un bulldog au moins, le bulldog, ouais.
Lui, qu'est-ce que tu avais un surnom dans le peloton lorsque tu étais coureur?
Oh, bah écoute, on m'appelait Lucho.
Voilà. On t'appelle toujours Lucho.
Ouais.
Thierry, est-ce que tu avais un surnom, toi, mon Bourgui?
Oui,
j'en avais un.
Ah, et Cyril aussi, oui.
Oui, bah d'ailleurs, c'est d'actualité ici.
C'est-à-dire?
Bah, on m'appelait Napoléon.
Mais c'est Eddie Merckx qui t'a appelé comme ça.
Non, c'est pas Eddie Merckx, le petit Napoléon.
Le petit
Napoléon. Mais non, Eddie Merckx m'a jamais appelé Napoléon.
Le petit rat, il t'a appelé l'année dernière. Oh, c'était pas ça.
Ouais, c'est un très beau surnom d'ailleurs.
C'est du salut.
Le problème, c'est que le petit rat, il sautait souvent sur la ligne.
Ah oui. Oh. Ah là là, ça, c'était une grande époque. Bourgui,
c'est vrai qu'on va pas en vacances ensemble. Hein.
Depuis l'année dernière, surtout.
Bah oui, je sais pas, il s'est fâché, oui. Il a pas
aimé. Ah oui, mais tu racontes tellement de bêtises.
Bah c'est vrai, mais j'ai dit que les surnoms n'étaient pas par hasard, puisque vous êtes sur les surnoms.
Et lui, c'était le cannibale, hein.
Ouais, et je le disais, à partir du moment où on a un surnom comme le cannibale, ça veut dire qu'on n'est pas obligatoirement poupou, quoi.
Oui. Voilà. Ah oui, c'est en fonction des personnages, la personnalité de tous ces coureurs.
Un surnom n'est jamais par hasard.
Bon, Thierry, c'était quoi?
C'était Bourgui, hein. C'est plus simple, tu l'as dit. Je pense pas, Lucho.
Non, c'était Bourgui.
Bourgui.
Oui, voilà.
Bourgui.
Il y a un coureur dans l'échappée, on rappelle la composition de l'échappée à 47 km de l'arrivée. Deux Français, Lemoine et Cousin. Un Hollandais, Lars Boom, et l'Espagnol Juan Antonio Flecha. Ils sont quatre. Il y a un coureur qui a un surnom, il s'appelle Moineau. Lequel d'après vous?
Non,
dans l'échappée.
Le Moine.
Voilà, le Moine. Cyril Lemoine est appelé dans le peloton Moineau.
Le prêtre, on aurait pu le surnommer aussi.
Très bien, alors si vous voulez nous suivre sur RMC, où que vous soyez, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement l'appli RMC Sport et vous pourrez nous suivre n'importe où sur le territoire, même à l'étranger, genre à New York, à Los Angeles, au fin fond de la Lorraine. Lorraine, au fin fond des Alpes.
À l'étranger, au fin fond de la Lorraine. Vous êtes content.
Non, je cite tous les endroits où on peut nous recevoir grâce à l'appli RMC Sport. Et puis, si vous voulez communiquer avec nous, alors là, c'est encore plus simple. Il y a sur Twitter.
Non.
Oui, le hashtag, mon cher Fred.
Ouais.
Je sais que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Le hashtag.
Si j'ai créé
RMC Tour.
J'ai créé le hashtag.
Tu as créé le
concept
hashtag,
même.
Le hashtag, le goulag. Le hashtag RMC Tour, où là, vous pouvez nous mettre toutes vos petites réflexions. N'hésitez pas, si vous avez envie de vous payer la tronche de Fred Adam, Cyril Guimard, de Luc Leblanc ou Thierry Bourguignon, vous n'hésitez pas. Et puis, si vous êtes sur l'appli RMC Sport, ou si vous êtes plutôt sur le site rmcsport.fr, lorsque vous nous écoutez, vous avez un petit player pour écouter RMC. Et là, vous avez un petit truc pour nous envoyer des messages. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je les lirai à l'antenne. Si ce sont de bons messages, évidemment, si vous nous apprenez des choses ou si vous nous faites des réflexions intéressantes. Allez, on revient sur cette course. On va peut-être revenir d'ailleurs sur ce qui s'est passé ce matin, puisque vous le savez, c'était la première étape et que l'avant départ de ce Tour de France a été plutôt mouvementé, Fred. On le rappelle, les déclarations de Lance Armstrong hier matin au journal Le Monde ont provoqué un beau tribut dans ce Tour de France. Et du coup, ça a provoqué la colère, l'ire même des coureurs du Tour de France qui ce matin sont allés à la rencontre de Madame Fonderon. Je crois que Georges Quirino était présent ce matin. Georges, sur la moto.
Tout à fait. Il y a cinq coureurs qui se sont rendus à un rendez-vous avec Valérie Fonderon. C'est l'association des cyclistes professionnels qui avait demandé ce rendez-vous. Donc étaient présents Jérémy Roy de l'équipe FDJ, Samuel Dumoulin de l'équipe AG2R La Mondiale, le vétéran Jens Voigt de Radio Shack, il y avait Louis Central Maté de Cofidis et Jérôme Pinault de la formation Omega Pharma Quickstep. Ça fait 5, voilà, je les ai tous dit. Et puis donc ils avaient demandé un rendez-vous avec Valérie Fonderon pour simplement
sports,
exprimer leur ras-le-bol. La ministre des Sports, tout à fait, pour exprimer leur ras-le-bol du traitement, notamment des médias, et d'être associé constamment aux affaires de dopage très anciennes, et notamment ceux du Tour 98 dont on parle beaucoup actuellement. Il y a eu les révélations concernant Laurent Jalabert il y a très longtemps, il y a quelques temps, il y a eu les déclarations de Lance Armstrong également. Donc ils veulent que les ministères des Sports communiquent, en tout cas dans le bon sens, pour les coureurs actuels et soit ainsi parfaitement clair auprès du grand public. Et puis ces cinq coureurs ont également demandé autre chose. Vous savez qu'il y a actuellement une commission d'enquête sénatoriale pour la lutte contre le dopage. Cette commission d'enquête doit donner un rapport le 18 juillet prochain, où elle a promis à l'intérieur de révéler le nom de tous les coureurs dopés au Tour 98. Le problème, c'est que le 18 juillet, eh bien, on est encore sur le Tour de France. Ce sera l'étape reine de l'Alpe d'Huez, donc les coureurs ne sont pas du tout content. Ils ont peur que le sportif soit encore passé au second plan et que le scandale leur tombe une fois de plus sur les épaules. Donc ils ont demandé à Valérie Fonderon d'essayer d'influer auprès des sénateurs pour que ce rapport ne sorte pas pendant le Tour de France mais après. Valérie Fonderon, la ministre des Sports, a entendu cet appel, mais elle rappelle très bien que les sénateurs sont indépendants, c'est le pouvoir législatif, elle représente le pouvoir exécutif, donc elle va en parler avec eux, mais n'a rien promis en tous les cas à ces cinq coureurs. Marc Madiot, également le président de la Ligue et manager de la FDJ, était présent ce matin. Cette réunion a duré une bonne trentaine de minutes et les coureurs sont plutôt ressortis optimistes.
Très bien, on va écouter tout de suite Jérôme Pinault, donc rencontré ce matin par Georges, par Pierre-Yves et par Pierrick Ten.
Un très beau surnom pour Jérôme Pinault, on était dans les surnoms tout à l'heure. Lapine.
Oui.
Allez-y.
Voilà, ça c'est bien fait pour toi. Jérôme Pinault, donc, sur justement cette demande de ne pas sortir cette liste le 18 juillet prochain. On en parle ensuite de cette liste parce qu'il y en a certains dans le camion qui sont un peu concernés par la liste. Allez, Jérôme Pinault, on l'écoute.
Vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'aujourd'hui ça suffit, qu'on nous tape dessus, qu'on est un des sports qui fait le plus, si ce n'est le sport qui fait le plus d'efforts en lutte contre le dopage, que ressortir ces vieilles affaires ne fera pas avancer la lutte antidopage. C'est clair, le message fort des coureurs, c'est nous, on est toujours et encore plus pour la lutte antidopage, mais qu'on nous fiche la paix avec ces vieilles histoires. Et on lui a clairement demandé que cette liste, ce qui doit sortir le jour de l'Alpe d'Huez, cette sortie soit décalée, parce que je pense que ça va décrédibiliser complètement le Tour de France, notre étape. Donc, ce qu'on veut pas faire savoir, c'est que faire un Tour de France clair sans dopage, c'est possible aujourd'hui, et que les temps de 98 sont révolus. On ne dit pas qu'il n'y a plus de dopage, on veut continuer la lutte anti-dopage, mais il faut arrêter à un moment donné de taper sur le Tour de France, de taper sur les coureurs.
Voilà, Jérôme Pinault qui demande donc d'arrêter de taper sur le Tour de France et sur les coureurs, et qui demande également que la liste donc des coureurs dopés durant le Tour 98 ne sorte pas le 18 juillet. Écoutez la réponse de la ministre des Sports, Valérie Fournel.
Les coureurs, il faut les écouter. Aujourd'hui, ils ont ce sentiment de lynchage médiatique pour des histoires anciennes. Moi, je ne veux pas de cette chasse à la sorcière. Le Tour de France, c'est pas que le dopage, et le dopage, ce n'est pas que le Tour de France. Donc, c'est à elle de décider à quel moment elle rendra ses conclusions. Mais son travail a été mené sur l'ensemble des disciplines, et moi je suis très attentive à ce que l'ensemble des disciplines soient traitées de la même façon.
Très bien, voilà la réponse donc de Valérie Fourneyron. Alors Luc Thierry, puisque vous étiez coureur en 1998 lors de ce fameux Tour de France évidemment, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette liste? Doit-elle sortir le 18 juillet? Est-ce que vous êtes inquiet d'ailleurs à l'idée de voir vos noms figurer?
Non, mais on sait jamais. En off, on le dit depuis le départ, on n'est pas inquiet du tout avec Thierry. D'ailleurs, si tu as lu le dernier magazine Pédale sur moi, il y a un petit passage concernant le dopage. Il y a 10 pages d'ailleurs dans Pédale. Achetez-le, c'est un très bel article. Voilà, j'en fais un petit peu la promotion.
Non,
pour tout te dire, je pense que les coureurs qui ont eu le rendez-vous avec Madame Fourneyron ce matin, c'est logique de ne pas sortir la liste pendant la période du Tour de France, notamment, surtout dans les étapes décisives de ce Tour de France. Donc ça crédibiliserait, je dirais, encore le Tour de France et les cyclistes, et de la sortir après, mais pourquoi pas. Mais j'espère que un des sénateurs de la commission, dont le président de la commission donc sénatoriale, monsieur Jean-Jacques Lozat, qui est le président du conseil général de la Creuse et qui est un élu de la Creuse, donc de chez moi, si Jean-Jacques tu m'entends, essaye de mettre la pression pour que cette liste ne sorte pas.
Ne sorte jamais, tu ne veux pas qu'elle sorte.
Je dis ne sorte pas pendant le Tour de France. Après, vous prenez vos responsabilités de la sortir après, mais surtout pas pendant le Tour de France, où les gens rêvent du Tour de France, rêvent des performances des coureurs, le maillot jaune, le maillot à poil, le maillot vert, tout ça réuni, c'est quand même du bonheur pour les gens.
Thierry, tu étais également coureur cycliste en 1998.
98, 99, oui, bien sûr.
Tu es sur la même ligne que...
Je suis serein, il n'y a pas de problème. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les coureurs de dire, décaler au moins l'ouverture de la liste, parce que ça n'apporte rien. Comme j'ai dit, le coup de Jalabert, on salit une personne à travers tout ça. Revenir 15 ans en arrière, ça ne rime à rien.
On rétablit une vérité quand même.
Non. Oui, mais d'accord, mais
d'autres sont passés aux aveux, d'autres ont été piqués. Lui n'est jamais passé aux aveux. Ça sort maintenant. Fallait peut-être que ça sorte un jour.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais ça apporte quoi au vélo et à la lutte contre le dopage?
On rétablit une vérité.
Ah voilà, la vérité.
C'est une information.
Oui, d'accord.
Non, mais je pense, très honnêtement, que cette commission.
Si on revient 50 ans en arrière.
Non, je pense que cette commission.
On a pas les échantillons avant, là.
Oui, mais Christophe, je pense que cette commission sénatoriale a pour but de comprendre et de chercher à comprendre ce qui s'est passé il y a 15 ans et voire au-delà, et de trouver, de prendre des dispositions au niveau des lois pour protéger l'ensemble des jeunes coureurs qui arrivent dans le cyclisme et voire dans d'autres sports. Et ils cherchent à comprendre, c'est tout. Ils demandaient. Ils demandaient à ce que la vérité sorte. C'est tout, en off. Après, à eux de prendre les dispositions, de trouver des solutions pour protéger les jeunes coureurs pour l'avenir. Et je crois que c'est important pour nous, les anciens coureurs, de donner l'exemple, de dire ce qui s'est réellement passé pour que les jeunes puissent aborder le cyclisme dans les meilleures conditions possibles dans les années à venir.
Mais Lucho, de toute façon, je suis d'accord avec toi. C'était au départ pour qu'on puisse travailler, du moins que les gens de la commission puissent travailler sur l'avenir du cyclisme et l'avenir de la lutte contre le dopage. Mais là, je suis d'accord qu'il y a un travail de fait sur les anciens échantillons. Et ça, tout à fait d'accord, puisque quand on était coureur, on l'a admis. On a donné notre accord pour qu'ils puissent garder ces échantillons pour faire des analyses rétroactives. Mais on devait garder la confidentialité. qui n'a pas été gardé. Moi, je trouve que ça n'importe rien de casser la confidentialité.
Mais là, je suis d'accord sur la confidentialité.
Mmh. Oui, voilà.
Très bien. Cyril, ton avis là-dessus, avant de passer à autre chose, parce qu'évidemment, il y a une course.
Oui, parce que l'échappée n'a plus que 47 secondes d'avance. Oui. Donc, le peloton se rapproche. Nous sommes à 40 km de l'arrivée.
Oui, mais
j'adhère à toutes les stratégies dans la mesure où elles sont logiques. Alors, si on va faire une toute petite synthèse, je n'aime pas que l'on parle de Jalabert en 98 comme d'un dopé. Ça, j'en reparlerai avec Georges. Mais non, parce que le problème, c'est qu'en 98, on sait que tout le monde marchait à l'EPO, puisque je l'ai déjà expliqué, il ne fallait pas dépasser 50 d'hématocrite. En dessous, vous pouviez prendre de l'EPO. Vous n'étiez pas pénalisé, donc ce que faisait.
C'était jamais autorisé.
Monde,
c'était pas autorisé non plus.
Non,
même.
Non, mais comme on ne pouvait pas le retrouver, on avait mis cette possibilité de limiter l'utilisation de l'EPO. Mais on a accepté, c'est vrai, de garder les flacons pendant 8 ans. C'est bien pour les réanalyser un jour ou l'autre. Le Sénat a demandé à voir les résultats de ces flacons qui avaient été analysés en 2004. Bon, tout ça rentre dans une logique, dans une véritable logique. Après, c'est comment on traite ce type d'information, et c'est là où c'est un petit peu gênant, c'est que d'un seul coup on va faire un bouc émissaire de Laurent Jalabert, alors que comme je dis, tout le monde à cette époque-là fonctionnait de la même façon, avec les complicités, que je veux dire, on avait les médecins qui étaient là et
attention,
qui surveillaient les préparations, c'est tout quoi. Bon, alors moi je crois qu'il faut qu'effectivement nous soyons sur un tour serein, et je pense qu'on a beaucoup de raisons de l'être. On est aujourd'hui en 2013, et 2013 n'est plus du tout et ne ressemble plus du tout aux années 90, on va dire, y compris à toutes les années Armstrong. On est rentré maintenant dans une autre culture de l'antidopage, et tout le monde adhère aux différents outils que l'on a mis en place pour lutter contre le dopage dans le cyclisme.
Très bien, voilà un point qui méritait d'être fait. En tous les cas, vous l'avez compris, sérénité ici dans le Camus RMC. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon, ne craignez pas cette liste qui sortira le 18. De toute façon, il y a déjà eu des aveux de fait, Lucho, il y a quelques années.
Oui, je l'ai expliqué sereinement avec ma propre conscience, et je crois que comme je le disais récemment dans un dernier article sur le Parisien, je crois qu'il faut vivre avec sa conscience. Donc à un moment donné, je crois que dans la vie, il faut savoir dire la vérité et dire réellement ce qui s'est passé et pourquoi. Voilà.
Très bien. Allez, retour sur la course pour cette première étape donc de la 100e édition du Tour de France. Nous sommes entre Porto Vecchio et Bastia. Nous sommes d'ailleurs maintenant beaucoup plus près de Bastia que de Porto Vecchio. Il reste un peu moins de 40 km. Nouveau point complet sur la course. C'est le Top Course de Fred Adam.
RMC Top Course.
À 38 km de l'arrivée à Bastia, où l'on attend, selon toute vraisemblance, une arrivée avec un sprint massif. Ils sont toujours 4 échappés depuis le kilomètre 0 tout à l'heure à la sortie de Porto Vecchio. Deux Français, Jérôme Cousin de l'équipe Europcar et Cyril Lemoine pour Sojasun, l'Espagnol Juan Antonio Flecha et le Hollandais Lars Boom. Mais derrière, le peloton est lancé à leur trousse. Et le dernier pointage à 38 km de l'arrivée fait état d'une avance de 25 petites secondes. Les équipes de sprinteurs, mais aussi tiens, les Radio-Shack d'Andy Schleck mènent la danse. On protège les leaders pour le classement général, en plus de ramener les sprinteurs à l'avant de la course.
Il est 16h30, vous écoutez RMC. Avant de revenir sur la route du Tour, nous allons faire un petit détour par Wimbledon avec Richard Gasquet qui est sur le center court. Il est en difficulté face à Tommy et Eric Salio. Où en sont les deux hommes?
1-7 partout, Christophe, dans ce troisième tour extrêmement serré, extrêmement indécis, puisque le score est parlant, hein. 7-6 Tomic, 7-5 Gasquet après avoir sauvé 4 balles de 7, et dans le troisième set, attention, 6-5 pour l'Australien, et c'est Richard Gasquet qui est au service et qui peut se retrouver en difficulté, puisque même s'il a demandé le hokai, en principe on va être à 15-30 sur le service du Français, donc Tomic se rapproche peut-être du gain du troisième set.
Ok, tu nous rappelles tout à l'heure, 16h31, on revient dans une petite minute ici en direct de Bastia. C'est l'intégral Tour de France jusqu'au 21 juillet et aujourd'hui c'est la première étape. On se retrouve dans une minute.
RMC, intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et oui, c'est parti pour cette 100e édition du Tour de France jusqu'au 21 juillet prochain. Tous les jours entre 15h et 21h, nous vous disons tout de ce Tour de France avec évidemment le direct dans les étapes de montagne. Nous serons d'ailleurs présents dès 14h pour vous faire vivre les passages au col et puis ensuite les analyses, les débats jusqu'à 21h avec Virginie Fulpin en toute fin d'après-midi avant de revenir ici sur la route du Tour à 34 km de l'arrivée de cette première étape. Nouvel détour par Wimbledon, Eric Salio, et la troisième manche va dans la poche de
Tomic, Bernard Tomic, malheureusement Richard Gasquet qui a coincé dans le 12e jeu. Il s'est fait prendre un passing de coup droit très très fusant de Teo Tomic qui a surpris Richard Gasquet à la volée. Donc deux manches à une pour Bernard Tomic sur le central de Wimbledon. 7-6, 5-7, 7-5. C'est très accroché, ça peut encore tourner, mais il faut plus rater.
Il n'a plus le droit à l'erreur. Merci Eric, à tout à l'heure. Retour sur la route du Tour. 33 km, un peu plus de 33 km encore à parcourir. Nouveau point complet, le top course Fred Adam. On se rapproche de l'arrivée et la physionomie s'est soudainement transformée.
RMC Top Course.
À 33 km de l'arrivée de cette première étape entre Porto Vecchio et Bastia, le peloton est groupé, mais le peloton roule à très très vive allure et ça sent le roussi, ça sent en tout cas la chute, autant le dire, car les équipes de leaders se sont portées à l'avant du peloton. Ce ne sont plus seulement les Omega Pharma de Mark Cavendish qui emmènent le peloton, mais bel et bien les Radio Shack d'Andy Schleck, les BMC de Cadel Evans, mais aussi les Saxo Tinkoff d'Alberto Contador. Il y a le feu à l'avant du peloton. On tâche d'éviter les cassures, on protège les leaders et effectivement il y a des éventails qui sont en train de se former. Je ne suis pas sûr que le vent souffle très fort, mais le bord de mer s'annonce très piégeux dans les 30 prochains kilomètres.
Allez, on va demander justement à Georges Quirino sur la moto RMC l'état, enfin les situations météo. Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce que ça va vite également, Georges? On a l'impression qu'en tous les cas, il y a eu vraiment une accélération soudaine. Hein.
Oui, il y a une accélération soudaine, effectivement. On voit le peloton derrière nous qui est étiré en file indienne. On peut distinguer les maillots de la formation Sky, notamment à l'avant du peloton. On parlait du vent il y a quelques instants. C'est vrai qu'on avait dit que ça pouvait être une donnée importante aujourd'hui. Mais depuis le début de cette étape, depuis que l'on longe la mer Méditerranée, c'est pas vraiment un vent très fort qui souffle et qui vient de la droite pour les coureurs, parce qu'il vient de la mer ce vent, donc on peut pas vraiment dire que là le vent va jouer un rôle particulier, peut-être pour un coup de bordure dans quelques instants. Pour l'instant on est dans des secteurs là actuellement qui sont plutôt à l'abri du vent en plus, mais c'est vrai que l'on voit les coureurs désormais, ce peloton qui s'étend de plus en plus en file indienne et des coureurs allongés sur leur machine. On voit très distinctement les maillots bleus de la formation Sky, mais forcément la vitesse est de plus en plus élevée et il faut s'avancer le plus rapidement avec la moto pour éviter le danger. Ça montre que l'on est rentré désormais dans une autre partie de la course. On est dans des routes très 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 larges là, sur une deux voies, donc vraiment dans de grandes lignes droites encore une fois. Donc on a passé la surmultipliée là désormais du côté du peloton.
Très bien. Thierry, tu connais bien les routes corses. Là on est effectivement sur une quasi autoroute, mais
oui, c'est vrai,
ça va changer dans peu de temps, hein.
Là on va sortir d'ici un kilomètre, on va prendre à droite et on va prendre la lagune. Et là on passe d'une double voie à une petite route avec un peu tortueuse, avec quelques pièges, et comme on se rapproche de la mer encore, eh ben, il y a peut-être un peu plus d'influence du vent.
Que se prépare-t-il? On va demander à notre druide qui lit évidemment dans les cartes ou dans les boules de cristal. Cyril, c'est étonnant de voir les équipes des leaders remonter aussi vite et se porter en tête de peloton avec autant de vitesse.
Non, ça n'est pas étonnant. On est à moins de 30 km de l'arrivée. Ça fait 4 ou 5 km que tout le monde a mis un petit peu en route. D'abord les Radio Shack et puis ensuite les Saxo. Alors je confirme que moi qui suis en haut de ma tour, en haut de mon chêne, eh bien le vent vient de la mer et que c'est vrai que si on reste sur des parties un petit peu protégées, il n'y aura pas de formation de bordure. Mais je pense qu'à certains moments, on risque quand même de jouer avec ce vent vent qui vient pratiquement de nord-est, est, nord-est. Voilà, les choses sont en train de se calmer parce que la route est devenue très large. Mais le peloton tout à l'heure était quand même à la limite d'avoir de, il y avait à peu près deux ou trois possibilités de cassure. Voilà, ça y est, on s'est un petit peu calmé.
Ah, mais Cyril, ça va sortir de la voie express là, sous peu, et on va tomber sur une petite route et on va se rapprocher de la mer.
Alors, je pense qu'ils se sont peut-être énervés un petit peu trop tôt, les Radio Shack de notre ami Galopin, qui est un petit peu, je parlais du directeur sportif, qui aime bien de temps en temps faire ce genre de petits coups, et quelquefois ça marche. On sait que ça avait très bien marché sur plusieurs épreuves, dont une fois d'ailleurs dans Paris-Nice en traversant la Beauce. Et donc le vent est quand même de plus en plus fort.
Ouais, donc attention au coup de bordure. On a vu également les coéquipiers de Chris Froome là, Froome se porter en tête de peloton. Fred, on veut aussi peut-être en se mettant devant, on essaye d'éviter aussi les incidents et les chutes. On sait qu'en Tour de France, en début de Tour de France, c'est toujours très nerveux et qu'une chute aujourd'hui pourrait casser toutes les chances de victoire finale pour les leaders.
Hein. Ils étaient en deuxième rideau quand les choses se sont un petit peu précipitées à l'avant du peloton lorsque les Radio Shack relayaient par les Saxo Tinkoff ont mis un peu le feu à l'avant du peloton. Du coup, ils se sont regroupés autour de leur leader, le favori Christopher Froome, et ils sont venus calmer un petit peu tout le monde, c'est vrai, sur des parties rectilignes et larges. Les Sky qui se sont fait un peu chaud, mais à peine. Le rouleau compresseur de 2012 pour Bradley Wiggins est bel et bien opérationnel en 2013 pour Christopher Froome, mais ça, on n'avait pas attendu le Tour de France pour le savoir. Les épreuves préparatoires au Tour nous ont montré la surpuissance de l'équipe Sky, les maillots noirs et bleus qui sont encore à l'avant du peloton sur des routes qui se sont désormais rétrécies. On est à 27 km de l'arrivée et les Sky sont relayés par Sylvain Chavanel, lui-même le français, coéquipier modèle aujourd'hui, avec son maillot Omega Pharma, coéquipier de Mark Cavendish, bien sûr, le grandissime favori en cas d'arrivée au sprint massif. Un sprint massif qui...
Il va travailler pour Cavendish dans le sprint.
Bien sûr, ouais. Il est là.
Rapide, hein, il a une pointe de vitesse, on l'a vu d'ailleurs dans Paris-Nice, Sylvain Chavanel, il sait faire parler la poudre.
Mais le Tour est une autre course, le Tour c'est une autre dimension, et c'est vrai que Sylvain Chavanel est là également pour se mettre au service à 100% pour Mark Cavendish.
Très bien, on se retrouve dans un instant, juste avant l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner votre place VIP pour assister à l'étape de vendredi prochain qui aura lieu entre Montpellier et Albi. Dans ce pack cadeau formidable, vous aurez des billets de train, la nuit en hôtel 4 étoiles la veille de l'étape, le survol d'une partie de l'étape en hélico puis dans la voiture de l'organisation, le déjeuner et l'accueil dans le car VIP sur la ligne d'arrivée. Bref, un magnifique cadeau et une journée de rêve pour tous les fans du Tour de France. Pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau, vous envoyez tout de suite le mot-clé RMC par SMS au 7 32 16. Bonne chance.
Avec Skoda, voiture officielle du Tour de France.
16h42, on va se retrouver dans quelques instants pour les 25 derniers kilomètres de cette première étape du Tour de France. On le rappelle, peloton groupé, mais peloton qui avance à vive allure, peloton en file indienne maintenant à l'approche de Bastia. A tout de suite sur RMC dans l'intégral Tour.
RMC intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et le dénouement de la première étape de ce 100e Tour de France va se dérouler dans quelques instants. Nous sommes à un peu plus de 22 km de l'arrivée à Bastia. Première étape donc entre Porto Vecchio et Bastia. 213 km quasiment plat, avec une longue ligne droite qui mène du sud de la Corse vers le nord. On s'approche de Bastia et le peloton est évidemment beaucoup plus nerveux à l'approche de cette arrivée. On va faire tout de suite un point sur la course. C'est le Top Course et c'est avec Fred.
RMC Top Course.
À 22 km de l'arrivée, ça y est, les choses se sont un peu calmées. Tout rentre dans l'ordre ou presque. Après le coup de feu des Radio Shack, des Saxo Tinkoff, puis des Sky, tout est massif à 22 km de l'arrivée. On retrouve les équipes de sprinters, notamment les Omega Pharma de Mark Cavendish. On attient des Astana également présents avec les Orica Green Edge, les Australiens, mais également les Radio Shack, toujours probablement pour protéger Andy Schleck qui a quelques frayeurs à son compte en 2013, lui qui a longtemps été tenu écarté du peloton, et ce sont eux, les Radio Shack, qui ont mis le feu aux poudres tout à l'heure, probablement sur les consignes, sur les ordres d'Andy Schleck, qui craint vraiment la nervosité du peloton depuis ce début de saison.
Et oui, Andy Schleck, on le rappelle, qui l'année dernière avait chuté. Et
sur le Dauphiné, voilà, fracture du sacrum, resté de longs mois à l'écart des pelotons.
Et il est en train tout doucettement de remonter la pente, notre ami Andy Schleck. Et il ne faudrait pas qu'une nouvelle chute vienne mettre à mal ses ambitions sur son Tour de France, d'ambition modeste, mais sait-on jamais avec Andy Schleck. Il nous a habitués par le passé, pas un passé récent, mais un passé un peu plus lointain, à de très belles choses. La moto RMC, Georges Quirino accompagné de Marc Comte. Tout à l'heure, Georges nous disait qu'on avait sérieusement accéléré, mais là, tout a l'air d'être rentré dans l'ordre. C'est ce que nous disait Fred, en tous les cas.
Oui, oui, exactement, et un petit peu comme le prédisait Bourgui il y a quelques instants, lorsque nous avons quitté cette voie express, double voie, et que nous avons basculé sur une sortie vers une route un petit peu plus étroite, et bien là on a senti que le peloton s'était un petit peu calmé, ou en tout cas avait baissé d'un niveau au niveau de la vitesse, mais on voit toujours énormément de formations qui tentent de se placer à l'avant. C'est vrai que c'est un peloton qui n'est plus en file indienne, mais qui est beaucoup plus regroupé. On peut distinguer les maillots bleu clair de la formation Omega Pharma Quick-Step, mais on voit également des coureurs de la formation Saxo Bank, des coureurs de l'équipe Sky ou encore de la formation BMC. On sent que l'on veut protéger les leaders sur cette fin d'étape. Pour l'instant, le vent dont on a parlé tout à l'heure ne souffle pas. En tout cas, là, on est sur des parties qui sont protégées du vent, ce vent qui vient de la mer et donc de la droite pour les coureurs qui franchissent, et bien voilà, à la instant le panneau indiquant les 20 derniers kilomètres, donc ce peloton toujours groupé.
Peloton toujours groupé, alors que la banderole effectivement des 20 derniers kilomètres vient d'être franchie par le peloton. Luc, beaucoup de nervosité en début de tour, c'est évidemment la peur de se blesser, la peur de chuter, la peur de trimballer comme ça pendant 3 semaines des blessures, et on sait qu'aucun Tour de France n'y échappe, il y aura des gamelles dans ce Tour de France, donc il faut essayer de se préserver en tout début d'épreuve. Hein.
Ben oui, parce que dès la première étape, il y a la pression déjà pour les équipes de sprinteurs, surtout pour l'étape d'aujourd'hui, Porto Vecchio Bastia, c'est la première fois qu'un sprinter pourrait avoir le maillot jaune, donc c'est vrai qu'il y a une pression à ce niveau-là. Et puis la deuxième pression, c'est la pression des équipes de leaders comme Contador, Schleck, Froome et d'autres. Et c'est vrai que ces équipes-là vont vouloir placer leurs leaders dans les meilleures positions possibles dans le final pour éviter une éventuelle chute due à l'activité des coureurs, des équipes de sprinteurs qui vont remonter donc leurs leaders pour l'arrivée au sprint. Si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une pression dans les 20 derniers kilomètres intense, et il va falloir éviter les chutes. Donc attention messieurs les coureurs, parce que c'est vrai que les 3 derniers kilomètres, Christophe, sont quand même assez sinueux.
Thierry, la peur de la chute, on y pense quand on est coureur dans le Tour de France. On sait que le Tour de France est évidemment l'événement de l'année pour tout coureur cycliste professionnel, et cette chute, cette peur de la chute est-elle présente dans les esprits?
On n'y pense pas dès qu'on a pris le départ. Dès qu'on est en course, c'est comme le pilote de Formule 1, il pense pas au crash.
Mais quand ça accélère comme ça
là on essaie de se préserver d'une chute. Oui, ouais, ça c'est clair.
Il faut être très attentif.
Il faut faire attention sur les bordures. Regardez sur la bordure de côté. On a des petits trottoirs qui peuvent attraper la roue et nous mettre par terre. Donc avec des changements de direction multiples jusqu'à l'arrivée. Là aujourd'hui, on le sait, hein, tout le monde l'a dit, c'est nerveux pour n'importe quel coureur, mais encore plus pour les sprinteurs, les équipes de sprinteurs qui ont vraiment le boulot à faire aujourd'hui, et puis les leaders qui veulent être préservés par leur équipe. Donc c'est pour ça qu'il y a les accélérations sur la fin.
C'est terrible ce qui est en train de se passer à l'avant du peloton. On est à 18 km de l'arrivée. Il y a eu un terrible coup de feu tout à l'heure à un peu moins de 30 km de l'arrivée, et la course est totalement neutralisée. Ce sont des rangées de coureurs qui occupent toute la route. On doit rouler à 40-45 km/h. N'importe quel cyclo-sportif pourrait presque suivre l'allure du peloton. On est à 18 km de l'arrivée de la première étape du 100e Tour de France. Il n'y a aucune course. Aucune course, alors qu'il y aurait, lorsqu'on est assez frais sur une première étape d'un grand tour, il y aurait largement de quoi faire. Qu'est-ce qui neutralise, qu'est-ce qui paralyse les coureurs?
C'est les équipes de sprinteurs qui sont en train de regarder. Et, ben oui, les équipes équipes de sprinters se disent quelle est l'équipe qui va emmener son leader.
Il n'y a pas de course.
Il n'y a pas de course parce que tout le monde se regarde.
Fred, de toute façon, même si tu es costaud, tu peux sortir là. Mais sur un parcours comme ça, rien.
Il va te faire reprendre.
Eh oui,
c'est
pour sortir à 60 km/h. Fred, je suis d'accord avec toi. Il faut de l'intensité, il faut du sport. Mais le sport, c'est 3 semaines. On est sur une course de 3 semaines et il faut se limiter.
Oui, oui. Mais moi, je pense aux enfants, aux jeunes qui regardent la télé en ce moment, qui nous écoutent. Il n'y a pas de course dans n'importe quelle course de cadet, de minime, en FFC, en UFOLEP, en FSGT. Les coureurs mettent des coups de fusil, des coups de pétard. Et on les comprend. C'est ça, faire la course.
Non, mais je suis d'accord. Mais là, les équipes de sprinteurs ne veulent pas prendre le risque d'emmener leur leader maintenant parce que c'est trop loin de l'arrivée.
C'est vrai que c'est...
Et ils risquent de manquer des coureurs pour emmener leur sprinter pour la victoire d'étape, c'est tout.
C'est quand même dommage, et Cyril, je pense que tu vas partager notre analyse, que une étape de Tour de France se résume à trois minutes de spectacle par jour. C'est quand même, en tous les cas, sur les étapes de plaine, les trois dernières minutes de la course, c'est quand même un peu dommage. Non, c'est quoi? C'est encore à cause des oreillettes, tout ça?
Non, là, vous êtes tous en train de me faire rigoler, là.
Là, ils sont en train de péter un câble, Cyril.
Je crois, oui. Non, mais il y a eu un gros coup de fusil qui a fait peur à tout le monde. Et derrière ce coup de fusil, on s'est dit, oh là, restons bien groupés devant. On a les arrivées alors que... Oui, on a un petit problème, excusez-moi, sur la ligne d'arrivée. Il y a un quart d'une équipe qui vient tout simplement d'accrocher la ligne d'arrivée.
L'arche de
la ligne d'arrivée.
Un détail. Mais ils ne vont pas avoir de problème pour freiner, ils ne vont pas rentrer dans la ligne d'arrivée à la vitesse à laquelle ils roulent. Hein.
Fred, c'est peut-être pour ça, c'est ce qui explique la lenteur du peloton, qu'on leur a dit que l'arche était tombée.
Évidemment pas.
Il va falloir aller très vite pour débarrasser la ligne d'arrivée.
Personnellement, et là j'en appelle à l'expertise de Cyril Guimard. Oui. On est à 16 km de l'arrivée, il n'y a aucune course, le peloton occupe l'intégralité, la totalité, la largeur de la route. Je n'ai jamais vu ça. Jamais, sur une étape du tour.
Ah, il est énervé.
Vous nous l'avez énervé, c'est pas possible.
C'est pas moi qui l'ai énervé.
Cyril, 16 km de l'arrivée, pas de course.
Parce qu'il n'y a plus d'échappée, parce qu'il y a eu ce coup de fusil qui a fait peur à tout le monde.
Il n'y a pas l'échappée, comme disait.
Et donc maintenant, personne ne veut prendre la responsabilité de relancer la course tant que ça reste comme ça. Mais je peux vous dire que c'est quand même très nerveux, et rien ne dit d'ailleurs actuellement qu'on n'ait pas tout simplement un petit vent de face, parce que le vent a tourné ici sur la ligne d'arrivée, il a tourné pratiquement de 30 degrés.
Ok, bon, mais puisqu'il ne se passe rien sur la route du Tour, on va aller piquer une tête, Fred, ça te dit? On va aller se baigner avec vous et on revient, on va laisser Lucho, Thierry et Cyril.
Allez-y, parce que nous on est contents de les voir. Oui, on tient la baraque.
Allez, on se retrouve.
Je t'assure, va vite te baigner.
Allez, on revient dans une minute.
Et refroidis, Fred, un peu.
RMC, jusqu'à 18h, Intégral Tour. Le Tour de France s'arrête à Bastia. Vous écoutez RMC à Bastia sur 104.3. Découvrez les véhicules officiels du Tour de France chez votre distributeur Skoda en Corse, à Borgo, Valrose et Rennes 193.
Les performances habitation GMF. Ordinateur, tablette, mobile. Nous assurons tous les appareils nomades de la famille pour seulement 7€ par mois. Voir conditions sur gmf.fr.
Enfin les big soldes sur ruedecommerce.com jusqu'à moins 80%. Les big soldes, c'est un réfrigérateur congélateur à moins de 200€ et un aspirateur sans sac à moins de 20€.
Profitez des big soldes ruedecommerce.com jusqu'à moins 80% sur une sélection d'articles signalés du 26 juin au 30 juillet dans la limite des stocks disponibles. Voir modalité sur ruedecommerce.com.
Et si Léonard avait inventé la plus célèbre des courses cyclistes, le Tour de France. Découvrez le nouvel album de Léonard Le Génie, album officiel du Tour de France. Après 40 ans de succès, Léonard revient au meilleur de sa forme avec son nouvel album Tour de Génie. Retrouvez Léonard Le Génie au rayon bande dessinée, un album des éditions du Lombard avec RMC.
Go !
100 ans d'étapes. 100 ans de course contre la montre. 100 ans de sprint. Une ligne d'arrivée tracée sur la plus belle avenue du monde. La 100e victoire. Et si c'était vous? Entrez dans la légende avec Tour de France 2013 et Pro Cycling Manager 2013. Les jeux vidéo officiels de la Grande Boucle. Enfin de retour sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360.
Alors Alex, tu pars cet été?
Bah évidemment.
Quand ça?
1er juillet.
Ah, et tu rentres quand alors?
Même chose, 1er juillet.
Là, il y a un truc qui m'échappe.
Pas le temps de souffler, la Liga reprend dès le 1er juillet sur beIN Sport. Coulisses, transferts, matchs de préparation, un dispositif exceptionnel pour plonger au cœur de la Ligue 1 avec l'émission spéciale Le Club, la reprise. beIN Sport, la télé totalement sport.
beIN Sport est à seulement 11 euros par mois sans engagement. Pour savoir comment vous abonner, appelez le 3650. 15 centimes d'euros la minute depuis un poste fixe.
Elle assure cette Wi-Fi party. Soch arrive chez vous et va retourner votre maison avec ses nouveaux forfaits mobiles plus Livebox à partir de 34,90€ par mois. Nouveau, profitez d'un forfait Soch tout en un avec mobile, internet, TV et fixe à partir de 34,90€ par mois et sans engagement. Soch, c'est dans la poche mais aussi chez vous. Soch par Orange, exclusivement sur soch.fr. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine sous réserve d'éligibilité. Frais de résiliation de l'accès internet de 50€, conditions sur soch.fr. Soch, vibrez sans engagement.
Je m'appelle Karl et je voudrais vous parler du mot Karl Berg, car il y a Karl dedans, mais aussi parce qu'il y a Berg. Ça fait penser au mot iceberg. C'est frais comme une Carlsberg. D'ailleurs, Berg, ça fait aussi penser à bière, mais sans le jet à la fin. Et Carlsberg, c'est une vraie bière blonde, fraîche, pétillante. Et ça, c'est Carlsberg. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
RMC Intégral Tour.
L'intégral tour et le final de cette première étape du Tour de France, donc entre Porto Vecchio et Bastia, on se rapproche de la fin de l'étape. Il reste encore 13 km à parcourir. Nouveau point complet sur la course. Fred était très énervé il y a quelques instants car il n'y avait pas de course.
Pas de course.
Hein,
13
km.
Ça va mieux. 13 km de l'arrivée. On a haussé de 3-4 km/h le rythme, mais il n'y a toujours pas de course avec des coureurs qui occupent toute la largeur de la route ou presque. Non, ça y est, on commence à s'organiser. Les équipes se regroupent autour de leurs sprinters ou de leurs leaders respectifs et effectivement on atteint enfin les 45-50 km/h à mon avis. On va confirmer ça avec Georges.
Exactement, Georges Quirino sur la moto RMC.
Eh bien, avant de passer à l'instant les 200 km de course, effectivement, eh bien, ils sont juste derrière nous, les membres de ce peloton qui, comme le disait Fred, prennent toute la largeur de la route de ces deux files. Et on voit pour l'instant, eh bien, des coureurs de l'équipe BMC, notamment sur la droite qui sont présents, plusieurs coureurs de l'équipe Orica, Green Edge. Il y a vraiment un petit peu de tout le monde là, à l'avant de ce peloton. On a du mal à distinguer qui prend vraiment les rênes. On voit les Omega Pharma Quickstep qui sont également sur la gauche du peloton. Alors que Radio Tour nous annonce une chute dans le peloton.
Oui. Chute à l'arrière.